Chapitre 14. Le cristal du verre captait les éclats des quelques lampes pour les diffracter, les teintant au passage de son ton d'ambre. Un rhum guatémaltèque, vieilli dans trois différents types de fûts pour le tanner et le caraméliser, faire jaillir sa personnalité. Ou la lui donner. C'était la question futile qui revenait lorsque Kat s'enfonçait dans le fauteuil de son bureau, un verre devant elle. Quelques gorgées pour l'accompagner dans sa réflexion en guise de dîner. Les courbes de Manhattan dans son dos à travers la fenêtre, serties dans sa parure de lumière. Le Zacapa ne lui brûla même pas la langue, au contraire. Il l'enroba, diffusant ses arômes tièdes sur son palais, racontant son histoire, ses notes boisées, son miel vanillé, avec la délicatesse du cuir qui glisse dans la gorge. Elle respirait le rhum. Son regard s'aiguisait. Silas Okporo semblait sûr de lui. Léna s'était tuée. Finalité d'une trajectoire irrémédiable pour cette grande dépressive qui avait passé ses derniers mois à se rassurer sur la nature même de la mort jusqu'à n'en avoir plus peur. Si tel était le cas, où était son corps? Pourquoi s'être caché? Et ça n'explique pas le SMS étrange expédié à sa mère la nuit dernière. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Jusqu'à preuve du contraire, Kat devait agir comme si la fille était vivante, la traquer, jusqu'à la retrouver, où qu'elle soit, quel que soit son état. Kat repoussa le verre et attira son ordinateur portable devant elle. La plupart des bases de données sur Internet mettaient un certain temps avant d'être mises à jour. C'est pourquoi Kat avait préféré se rendre directement sur le terrain en journée et se garder la soirée pour les recherches virtuelles. Elle avait peu d'espoir, mais une bonne privée devait en passer par là. Tout d'abord, et même s'il semblait improbable que Léna Fowlings n'ait pas utilisé son droit de téléphoner, il fallait s'assurer qu'elle n'était tout simplement pas derrière les barreaux depuis presque une semaine. Avec son nom complet et sa date de naissance, Kat avait ce qu'il lui fallait. Elle commença avec le site des prisons de l'État de New York, puis, sans conviction, étendit sa recherche à celui des prisons fédérales. La plupart des gens ignoraient qu'il était facile de vérifier le lieu d'incarcération des détenus et même leur date de sortie programmée. Tout était public, accessible en quelques clics. Sans surprise, aucun résultat. L'ère de l'informatique, dans une société exigeant la transparence de l'État et de son système, avait grandement simplifié le métier de détective privé, pour peu qu'on sache se servir d'un ordinateur avec une once de jugeote. Là encore, par acquis de conscience, elle se rendit sur le site de la Sécurité sociale et consulta le fichier principal des décès en entrant le numéro de sécu de Léna fourni par sa mère. Dans un monde parfait, il était impossible que Léna Fowlings ait été retrouvée morte, déjà enregistrée comme telle auprès de la Sécurité sociale et que sa propre famille n'ait pas été informée de la disparition. Toutefois, Kat avait appris qu'il se produisait parfois des choses insensées, surtout lorsqu'on touchait à l'administration. Toujours rien. Là au moins, c'était en soi une bonne nouvelle. Elle rédigea alors un email succinct en y joignant la photo numérisée de Léna, précisant ses détails physiques, dont le tatouage d'ange sur l'épaule, et l'envoya à tous ses contacts dans la police ainsi qu'au bureau du légiste de Manhattan. Si un corps de femme pouvant correspondre avait été repêché dans le coin récemment, il le saurait et la préviendrait rapidement. Pendant que les photos prises chez Léna se transféraient une à une sur son ordinateur, Kat tapa un autre mail, à Silas Okporo cette fois, sur l'adresse qu'il lui avait fournie. Puis elle y ajouta le cliché montrant le mieux les symboles pyrogravés sur les os du chat et expédia le tout. Pendant plus d'une heure, sirotant son rhum dont elle éclusa plusieurs verres, Kat fit défiler les photos pour s'assurer qu'elle ne passait à côté de rien et en mémoriser le plus possible. En tombant sur celle d'une pile de flyers qu'elle avait ensuite immortalisée un par un, elle se souvint d'un courrier ramassé dans la boîte aux lettres de Léna. Elle avait complètement oublié de le déposer dans l'appartement. Ça ne sera pas la première fois. Le genre d'erreur qui pouvait lui coûter sa licence si ça dégénérait. Elle n'avait aucun droit de s'en emparer, même avec l'autorisation de la mère. Léna était majeure, sous aucune tutelle. Elle irait le remettre en début de semaine. Kat ouvrit sa besace et en extirpa le petit paquet qu'elle déposa devant elle sur le cuir du bureau. Lena Fowlings n'avait pas ramassé son courrier depuis un moment. Un coup d'œil au cachet de la poste indiqua le 18 mars, soit presque 2 semaines avant sa dernière entrevue avec Silas, dernière fois qu'elle avait été vue. C'était donc une flemmarde. 2 lettres avaient été ouvertes, signe qu'elle devait tout de même jeter un œil de temps à autre pour vérifier s'il n'y avait rien d'urgent. Kat en fit un bref inventaire. Essentiellement de l'administratif, une des enveloppes éventrées devait contenir un chèque de remboursement, pour le reste, beaucoup de publicité sans intérêt. Tu consultes ta boîte, mais bordélique comme tu es, tu ne t'embarrasses pas à trier ou remonter ce qui compte. Cela collait avec le profil qui émanait de l'appartement. Vaisselle pas faite, fringues mal rangées, Lena entassait et ne triait qu'une fois acculée. Rien de bien passionnant. Kat s'enfonça dans son fauteuil, son verre à la main. Quelle était sa prochaine ouverture? Effectuer une recherche des passifs financiers de Lena? Dans quel intérêt? Aller jeter un œil aux archives des tribunaux pour vérifier si elle n'était pas mêlée à une histoire quelconque qu'elle n'aurait pas racontée à sa mère? Pourquoi faire? Sinon relever quelques noms associés. Beaucoup d'énergie et de temps pour pas grand-chose. Non. Kat devait être plus précise. Efficace. L'entourage. Tout partait toujours de là dans une disparition. Elle s'empara de son carnet de notes et jeta un œil aux rares noms et téléphones qu'Annie Fowlings lui avait confiés. De vieilles connaissances de Lena pour la plupart. 23h11. Trop tard pour appeler. Elle aurait dû commencer par là. C'est exactement ce qu'elle aurait fait en temps normal, alors pourquoi s'être précipitée dehors? Je voulais comprendre cette fille bizarre, la renifler, m'en faire une idée plus précise que ce que sa mère m'a raconté. C'était important avant de parler à ses amis, savoir qui elle était pour ne pas se laisser berner. Si Lena était couverte par un de ses contacts, il fallait pouvoir sentir lequel qui lui mentirait. Un email était arrivé entre-temps et s'affichait sur l'écran devant Kat. Expéditeur Annie Fowlings. Comme promis, la mère était parvenue à trouver le code d'accès au compte client de sa fille sur son opérateur téléphonique. Elle lui envoyait plusieurs pages de relevés d'appels. Si Lena Fowlings s'en rendait compte et portait plainte, Kat pouvait risquer gros. Elle cliqua néanmoins sur le bouton de téléchargement et imprima la liasse dans la foulée. Le dossier n'était pas énorme pour 3 mois de communication. Lena n'était pas une folle du portable, ni la plus populaire des filles. Kat commença par attribuer une couleur de stabilo à chacun des contacts déjà fournis par Annie Fowlings et les chercha parmi la 30aine de pages. Aucune périodicité. Pire, 2 seulement apparaissaient. En effet, Lena n'était pas du genre à entretenir ses amitiés. Kat s'attela ensuite à entourer toutes les fois où elle repérait le numéro d'Annie. La plupart du temps, c'était la mère qui appelait sa fille, et non l'inverse. Puis, armée de ses feutres, Kat fit émerger les récurrences. 2 portables revenaient avec insistance. Le premier était le plus régulier au début, au mois de janvier, puis s'étiolait de plus en plus en février, avant de presque disparaître en mars. Kat lui attribua le nom de X. Le second, c'était le contraire. Un seul appel mi-janvier, puis 10 en février et le double en mars. Celui-ci fut désigné par Y. Un petit ami qui se fait remplacer par un autre en quelques semaines? Kat était sceptique. Elle fila à la toute dernière ligne. Lena avait appelé Y le dimanche 31 mars à 8h27 du matin, soit le lendemain du jour où Silas Okporo l'avait vu. Puis plus aucun appel de la journée. Pas même entrant. Téléphone coupé. Les relevés n'incluaient pas encore les premiers jours d'avril, il faudra attendre presque un mois pour cela. Kat relut le nom de l'opérateur téléphonique et jura entre ses lèvres. Elle n'avait aucun contact chez eux. X et Y étaient ce que Lena avait de plus proche sur ces 3 derniers mois. Si quelqu'un était susceptible de savoir où elle était et quels étaient ses plans, c'était l'un de ces 2-là. Kat ouvrit la fenêtre de son navigateur de recherche et trouva parmi ses favoris un annuaire inversé qu'elle savait plutôt performant, Master Files. Celui-ci ne donna rien sur les numéros de X et Y. Alors la privée passa à une base de données professionnelle, Skip Masher, à laquelle elle était abonnée. Elle y entra les deux séquences recherchées et tomba sur un nom pour X, Cécile Kingsley, Y demeura inconnu, lui. Kat googlisa le nom de Cécile Kingsley et tomba sur une tatoueuse de College Point, dans le Queens. C'est elle. Aucun doute. Une amie? Il était presque 1 heure du matin. La bouteille de rhum avait passablement diminué. Il était temps de fermer boutique. Rien de ce qu'elle avait à faire ne pouvait être entrepris si tard dans la nuit. Tout cela éclairait au moins Kat sur un point. Annie Fowlings n'était pas proche de sa fille. En tout cas, cette dernière ne lui disait pas tout. Annie n'avait certainement jamais entendu parler de Cécile Kingsley, pourtant la personne que sa fille avait le plus appelée en début d'année. Pas plus qu'elle ne semblait connaître la passion de sa progéniture pour la magie. Kat allait éteindre son ordinateur lorsqu'elle remarqua un autre email entrant. Silas Okporo en était l'expéditeur cette fois. Elle cliqua pour l'ouvrir. Le mystérieux vendeur avait traduit les symboles des Nokiens pyrogravés dans la cage thoracique du chat de Léna. Kat lut, et pendant un instant, elle demeura circonspecte. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme. Silas avait ajouté en dessous, « C'est une citation de la Bible dans l'Apocalypse. » Kat soupira longuement. C'était de pire en pire. Plus elle avançait, plus les questions l'assaillaient. Était-ce Léna qui avait vraiment fait une horreur pareille à son propre chat? Pour la santé mentale de la jeune fille et pour sa survie, mieux valait ne pas le croire. Mais impliquer une tierce personne dans un rituel aussi sordide était presque plus angoissant encore. Et quelle était la nature exacte de la relation entre Léna et sa mère? Qui sont Cécile Kingsley et Mr. ou Mrs. Y? Kat claqua le capot de son ordinateur et se releva un peu trop vite. Elle avait la tête qui tournait. Trop d'alcool. Heureusement, son lit n'était pas très loin, au bout du couloir derrière cette porte qui tanguait. Sa vie se résumait à cette porte, songea-t-elle. Un clapet de bois entre le privé et la privée. Son lit et son bureau. 43 ans d'existence amassés dans cet espace. Pas d'enfant, pas de legs spirituels à transmettre aux prochaines générations, rien qu'un passage fugace sur cette planète et personne n'en saura plus rien d'ici 1 ou 2 générations. T'as trop picolé, ma vieille. Par la fenêtre, Kat vit la masse lumineuse de Manhattan qui se détachait sur les ténèbres du ciel. La pointe sud en particulier, avec ses tours immenses comme autant de doigts cherchant à s'arrimer aux cieux. Kat lâcha un ricanement sec. C'était drôle. Autrefois, l'homme faisait tout pour se rapprocher de Dieu en bâtissant des clochers toujours plus majestueux, toujours plus hauts. Désormais, c'était Wall Street qui s'en chargeait. Et si demain l'apocalypse venait à s'abattre sur le monde, ce serait assurément de là qu'elle proviendrait. Les puits des bourses mondiales étaient directement reliés aux enfers. La finance contrôlait la destinée des hommes. Mais non, ces types-là savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas dingues. Des phares rouges clignotaient lentement au sommet des antennes des buildings. Kat songea alors qu'ils ressemblaient à des yeux maléfiques, attendant avec malice et patience le bon moment. Elle émit un autre rire, moins cassant cette fois, plus inquiet.